Histoire vivante, proposée par Irène Chaland et Jean Leclerc.
Peuple algérien.
Cette semaine, la Suisse et la guerre d'Algérie.
Un accord général vient d'être conclu à la conférence d'Évian.
De Sétif à Évian, neutralité et engagement.
Pour que l'Algérie reste française.
L'Algérie n'était pas la France.
Les négociateurs suisses favorisaient les entretiens secrets.
Une pratique que je réprouve.
L'usage de la torture.
Mais comme vous ne voulez pas parler, je suis obligé de le faire.
T'as qu'en tête, il se passe quelque chose en Suisse.
Le procureur général de la Confédération s'est suicidé.
Les accords d'Évian ne sont pas appliqués parce qu'il y a l'OAS qui fait la guerre à tout va.
L'engagement de certains ressortissants suisses dans différents groupes de l'OAS.
Oui, je suis sûr.
Il y a des dissidents algériens qui ont pris le trésor du FLN et l'ont sorti des banques suisses.
Que les haines iront en s'effaçant.
Quelles vont être les conséquences du suicide du procureur Dubois ? Quel intérêt la Suisse poursuit-elle dans la négociation entre la France et l'Algérie ? De quoi la Suisse sera-t-elle accusée dans son rapport indirect à la colonisation ? Comment la France apprécie-t-elle la présence sur territoire suisse de représentants algériens favorables à l'indépendance ? Quel coup de force sera réalisé ? Qu'est-ce que la main rouge ? Qui, en Suisse, va rejoindre l'OAS ? Qui sont les ressortissants suisses en Algérie ? Combien sont-ils ? Où travaillent-ils ? Quel va être leur destin ? C'est autour de toutes ces questions et de quelques autres que nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel entretien l'historien Damien Caron. Vous dites, Damien Caron, la Suisse a toujours su se placer dans le sillage des grandes puissances. Plusieurs auteurs ont parlé à son propos d'impérialisme suisse, de colonialisme helvétique, et puis il y en a d'autres qui ne sont pas non plus des plus agréables, impérialisme secondaire, colonialisme oblique, business impérialisme, colonialisme feutré, j'aime bien celui-là, opportunisme mercantile, expansionnisme économique au profil bas. On peut évidemment largement imaginer, au travers de ces vilains propos, que la Suisse, si toutefois elle les écoute, a tout intérêt à essayer de mettre son nez délicat dans le règlement d'une affaire opposant la France et l'Algérie. Vous avez, Damien Caron, travaillé de nombreuses années, vous nous le disiez hier, sur ces dossiers, notamment en étudiant de près les documents diplomatiques. On reviendra à l'intérêt que la Suisse peut avoir dans ce rôle, mais nous vous avons laissé hier sur l'affaire Dubois. Voilà, nous avons un suicide sur les bras, des services français qui sont passablement impliqués dans cette tragique fin. Un procureur qui suicide, c'est pas courant. Vous dites que c'est en 1957 et que ça va faire bouger les lignes, notamment les lignes suisses sur la question algérienne. Est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, nous donner l'éclat, la résonance et la reconfiguration, si ça doit se dire comme ça, qui suivent ce dramatique épisode du suicide?
Donc, mars 57, pour moi, c'est une césure dans l'attitude des autorités fédérales par rapport aux Algériens. Jusque-là, on a toujours dit et senti que la France devait rester en Algérie pour empêcher le communisme d'atteindre l'Europe. Maintenant, la France, l'avis qui est partagé va être celui de dire que la France doit justement partir de l'Algérie pour justement empêcher que le communisme vienne. C'est-à-dire que le jusqu'au boutiste de la France, cette attitude va maintenant être plutôt la cause du danger, plutôt que la protection de ce danger. C'est un petit peu ce changement qui se fait dans l'opinion des autorités. Là, on a eu concrètement la preuve que la France ne reculerait devant rien pour se maintenir en Algérie. Dès lors, on a une attitude de tolérance vis-à-vis de la présence algérienne en Suisse. On va essayer de garder toujours un équilibre entre les protestations diplomatiques françaises ou du gouvernement français, une sorte de façade de neutralité, de respect. Oui, effectivement, on prend en compte les demandes et les exigences de la France, mais par derrière, en fait, une sorte de facilitation qu'on offre, on offrira aux Algériens pour le transit, tant qu'ils ne font pas de politique sur le territoire suisse. C'est la seule chose qu'on... C'est un peu la définition qu'on va leur demander. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'ils fassent de politique, mais les gens qui sont là vont être probablement un jour les nouveaux dirigeants. Donc, on veut être bien avec eux. Ça, c'est la nouvelle clé de lecture qui se met en place. Et très concrètement, faire à tabac, c'est souvent en Suisse. Sa famille était à Berne, donc jusqu'en 57.
Redonner quand même pour les plus jeunes... Qui est Ferhat Abbas en quelque
sorte ? C'est la tête de pont qu'on envoie en Europe, qui va voyager pratiquement dans le monde entier, entre New York et Genève et l'Asie, pour faire connaître la voix du FLN. Donc c'est vraiment l'envoyé principal du FLN, c'est la visibilité c'est du FLN dans le monde. Et ses contacts, les gens avec qui il voyage, étaient... basé à Berne jusqu'au moment de l'affaire Dubois, et se déplace ensuite sur Montreux, la région Montreux-Lausanne. Dès lors, on va les suivre toujours. Il y a toujours la police fédérale va suivre un petit peu les allées et venues de ces gens, mais les policiers qui commencent à les connaître, donc on est en 50, ça fait déjà une année et demie, deux ans bientôt qu'ils se côtoient.
Mettre du mou sur la laisse.
Même plus que ça, c'est-à-dire qu'ils commencent à avoir des relations avec eux. C'est-à-dire qu'il y a des choses très intéressantes. Un Ferhat Abbas qui arrive de New York à l'aéroport de Genève, le policier qui est...
Pas des fleurs quand même.
Non, les fleurs pas. Mais le policier chargé de sa surveillance vient se présenter en disant bonjour. Et puis Ferhat Abbas lui dit « Mais vous êtes venu comment ?» Il lui dit ben, « Vous êtes en voiture ?» Il lui dit « Non, alors venez avec nous » et il le ramène à Montreux.
Ça crée des liens.
Ça crée des liens. Mais ces liens-là sont importants, parce qu'ils vont pouvoir, c'est par ces canaux-là aussi que Ferhat Abbas va pouvoir faire passer des messages au Conseil fédéral et le Conseil fédéral au FLN. Il y a des cas très concrets, la protection des Suisses en Algérie, il y a des cas de Suisses qui sont emprisonnés dans d'autres pays africains, où le FLN va être active pour essayer de faire libérer. Donc on a tout un lien qui se met en place, direct. Donc ça, pour moi, c'est un peu les fruits, on va dire, de la crise de
l'affaire Dubois.
De l'affaire Dubois.
Non, mais alors, dans cette situation, dans cet interstice étroit, si la Suisse montre une tolérance à vous entendre vis-à-vis de ces ressortissants algériens qui se trouvent sur le territoire helvétique, la France ne peut pas ne pas le savoir. Et comment prend-elle la chose ?
Relativement mal.
On pouvait s'y attendre, mais on va vous demander comment surtout. Voilà.
Alors, il y a des réactions un peu régulières de l'ambassadeur d'Ennery, qui est l'ambassadeur de France à Berne, qui est chargé régulièrement pour son gouvernement de venir protester au palais fédéral. Il y a des attaques au Parlement, à l'Assemblée nationale française régulièrement. Dans les journaux et des choses comme ça. On reproche, par exemple, que les Suisses, enfin, tous ces Algériens qui prennent le train de la gare de Lyon à Paris pour aller un week-end ou bien rejoindre leurs troupes. La réponse des autorités suisses est assez intéressante. Elle dit, mais les gens qui prennent le train à la gare de Lyon, on ne peut pas les empêcher, c'est pas à nous à le faire.
Vous êtes sur la première, il est 20h12, des événements d'importance nous incitent à interrompre Histoire vivante pendant quelques minutes. À la rédaction radio de la RTS, nous rejoignons Patrick Lefort.
RTS Info, flash spécial.
Bonsoir, bienvenue, on va directement au Vatican sur la place Saint-Pierre pour la nomination du nouveau pape. Nous entendons donc le cardinal français Jean-Louis Torrent est en ce moment sur le balcon. Il vient tout juste d'annoncer le fameux Habemus Papam, la formule qui est d'usage. Et il s'agirait d'un cardinal argentin qui aurait été élu, le cardinal Bergoglio. On va essayer de rejoindre en direct Natacha Etter qui est sur place. Natacha, est-ce que vous m'entendez ?
Oui, je vous entends. Alors, j'ai pas moi-même entendu le nom. Vous me dites, vous, c'est l'Argentin Bergoglio. Alors, c'était un peu un outsider. Hein. Il faisait partie des outsiders. Donc, visiblement, les favoris n'ont pas été nommés. J'ai entendu la foule ici, aux abords de la place Saint-Pierre, crier de joie. Mais c'est quand même un choix, franchement, assez inattendu ce soir. Les gens continuent d'arriver. Ils courent. Ils veulent assister à l'événement en direct. Il y a vraiment un esprit de fête ici. C'est très très festif, les gens crient, les gens chantent, beaucoup de familles, beaucoup de jeunes qui veulent voir maintenant, on va voir apparaître le nouveau pape hein, d'un instant à l'autre, ils veulent le voir, ils veulent vivre cet instant en direct, donc visiblement un outsider qui prend la tête de l'église catholique.
Alors effectivement Natacha, d'après les informations que j'ai en ma disposition, il s'agirait donc de Jorge Mario Bergoglio, âgé de 76 ans et qui est l'archevêque de Buenos Aires depuis 1998. Il figurait non pas effectivement parmi les favoris, mais parmi les outsiders. Et donc c'est une relative surprise. On avait une liste de favoris dans laquelle il n'apparaissait pas. Il y avait par exemple le cardinal Scola ou le cardinal Scherer qui faisaient vraiment partie des principaux favoris. Donc là, un choix d'un outsider. On va attendre encore qu'il vienne sur le balcon et entendre ses premiers mots. Je vois que maintenant les officiels sont en train de déployer toute la tenue, tout le balcon est en train d'être décoré pour l'apparition du nouveau pape.
Ce qu'on peut dire encore, vous m'entendez à Lausanne?
Oui, on vous entend.
Ce qu'on peut dire encore, c'est le choix d'un pape qui vient du continent américain. Alors, il y avait le Québécois Marc Ouellet et puis il y avait deux Nord-Américains. On parlait du Brésilien Scherer, c'est un Argentin qui vient du continent américain, malgré tout, un continent très important aujourd'hui pour l'Église catholique.
Et il s'appellera François, me dit-on. On va l'entendre d'ici quelques instants. Alors, non, on dirait qu'il n'est pas encore apparu sur le balcon. En tout cas, une foule immense, vous l'avez dit, Natacha. Une apparition à peu près une heure après la fumée blanche qui est intervenue vers 19h. Le temps, évidemment, que les cardinaux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont prêté allégeance. Ils ont aussi vêtu le pape de ses nouveaux habits, c'est bien ça?
Oui. Oui, et puis lui, surtout, il est allé se recueillir et puis il est resté un moment dans ce qu'on appelle la chambre des larmes, où il a revêtu l'habit blanc, mais il a aussi, il lui est concédé dans cette chambre des larmes de pleurer en endossant le poids de l'Église. Alors, on ne sait pas, on ne saura peut-être jamais s'il l'a fait, mais c'est un moment de recueillement pour le nouveau souverain pontife. Ce qu'on peut dire, c'est que les appels étaient lancés pour que l'Église catholique se dote d'un vrai pasteur, de quelqu'un qui soit proche des gens. Et je crois que c'est vraiment le cas de l'archevêque de Buenos Aires. On parle de lui comme de quelqu'un de très simple, de très humble, qui utilise les transports publics parce qu'il a envie d'être proche des gens et qui vit une existence extrêmement simple.
Merci Natacha. On va donc clore ce flash spécial avec cette nouvelle. Donc le nouveau pape est Jorge Mario Bergoglio, archevêque de Buenos Aires. Il s'appellera François en tant que pape. Il est donc le 266e souverain pontife.
Natacha Etter en direct de Rome, Patrick Lefort à la rédaction de La Première. Histoire vivante, c'est l'histoire avec un grand H. Nous venons vraisemblablement d'en vivre de l'histoire en direct. Je vous propose de raccrocher tant bien que mal avec Histoire vivante et Jean Leclerc.
Et puis d'autre part, la plupart des gens qui viennent chez nous ont des passeports français. C'est des Français. On ne peut pas interdire à des Français de venir en Suisse. Donc on va jouer sur ces détails-là. Personne n'est dupe, mais c'est difficile de prouver. Après, il y a d'autres choses qui vont se mettre en place. Cet interstice qu'on laisse, cet espace de liberté, va être utilisé dès 1957 par les Algériens, par le FLN, pour mettre en place comme des bureaux du FLN. Pendant 2 ans, pratiquement, ils vont développer, ils vont se structurer. Notamment, il y a beaucoup d'étudiants algériens à l'université de Lausanne. ou dans les autres universités, mais surtout à Lausanne. On a une gestion politique qui se met en place. On exige des cotisations de ces gens, des travailleurs algériens qui existent en fait sur le territoire suisse. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas toléré. Mais pendant 2 ans...
Pas toléré par...
Par les autorités suisses. C'est de l'activité politique. C'est justement ce qu'on demande aux Algériens de ne pas faire. Mais comme il y a cet espace de tolérance, automatiquement, c'est clair que, et naturellement, ils l'utilisent. Ça prendra 2 ans pour qu'on découvre l'existence vraiment de cette activité-là. Et en 59, quand on découvre, c'est un choc aussi. Cette fois, les autorités suisses sont un peu attristées de voir que les Algériens ont utilisé cet espace de liberté, ce qui est tout à fait naturel, on va dire, dans l'état des choses. Et il y a des expulsions qui vont être faites. On va expulser les gens qui sont les auteurs et les responsables de ces bureaux. Les Algériens vont essayer encore une fois d'en faire. Le premier bureau était à Lausanne, ils vont essayer d'en rouvrir un à Genève. Cette fois, la police les suit, donc il y a de nouveau une descente de police qui fait qu'on va de nouveau expulser des gens. Et là, il y a un contact direct qui se fait aussi avec les Algériens, entre les autorités suisses et les Algériens, et on dit stop, ça ne peut pas fonctionner. Les Algériens, à ce moment-là, abandonnent. L'activité organique en Suisse, ils vont l'abandonner.
Damien Caron, si les interpellations diplomatiques de la France vis-à-vis de la Suisse ne sont pas forcément suivies d'effet, ou que, comme vous nous l'expliquiez, la Suisse arrive avec souplesse à courber les chines sans rompre et laisse l'activité algérienne se développer malgré tout sur son territoire, avec les limites qu'elle a fixées, est-ce que, au-delà de la proposition diplomatique, il va y avoir parfois des coups de force. Est-ce que, du coup, des services secrets ou autres, est-ce qu'il va y avoir des attentats, est-ce qu'il va y avoir des règlements de compte pour faire pression du côté de la France sur le territoire suisse, sur justement ces Algériens qui sont en pleine activité?
Les coups de force qui sont connus, c'est surtout l'assassinat de trafiquants d'armes.
Alors, qui est ce trafiquant d'armes?
Son nom, c'est Léopold.
Gardons le prénom ou le nom, ça va très bien. Voilà.
Et il
Monsieur
est...
Léopold.
Voilà, Monsieur Léopold, on va dire. Il est assassiné du côté de Genève. Et c'était quelqu'un qui faisait du trafic d'armes avec les Algériens. Donc après, la petite histoire où l'histoire est venue rajouter cette idée que c'est la main rouge, donc c'est... Justement, cette fameuse main rouge...
Oh ben, fameuse, attendez pas pour tout le monde, parce qu'il y en a qui n'ont pas ouvert les dossiers depuis un certain temps.
Voilà.
Avant de dire fameuse, dites-nous donc qui c'est cette main rouge? Voilà. Quelle est donc cette invention-là?
Voilà, je crois que le mot invention est important, parce qu'effectivement, là derrière, c'est le SDEC, c'est les services de renseignement français, qui, pour camoufler un petit peu ces attentats qu'ils font sur des personnes dans différents pays, pas seulement en Suisse, hein, donc on va vraiment cibler des gens qu'on trouve un petit peu trop impliqué dans la lutte aux côtés des Algériens, on va mettre en avant
une organisation
qui, après coup, maintenant on le sait, n'était rien d'autre que les agents du SDEC.
Donc une organisation qui n'a jamais existé, mais qui portait un joli nom qui faisait suffisamment fantasmer, Main Rouge. Le coup de Léopold, on met ça sur le compte de qui? L'assassinat de Léopold, on sait qui c'est finalement? Ou est-ce que entre les premières pistes de l'enquête et puis ce qu'on découvrira finalement, le nom des auteurs, ou sinon l'origine des auteurs finit par changer? Non, ça ne fait rien. Non, vous n'avez pas travaillé là-dessus.
Non.
C'est le seul cas notable, voilà, d'une pression, enfin plus qu'une pression d'ailleurs, d'une exécution.
Je dirais que les autres pressions, à mon avis, celles que j'ai plus suivies, mon sujet étant un petit peu quand même de se concentrer sur ce que les autorités fédérales faisaient, savaient. Donc c'était un petit peu à ce niveau-là que je me suis concentré. Les grandes pressions, dès le moment où il faut dire qu'en 58, dès le moment où le général de Gaulle revient au pouvoir, il y a un changement qui va se faire aussi. Et là, notamment un des changements, c'est quand Debré devient Premier ministre. Là, on a une personne qui a souvent été critique vis-à-vis de l'action de la Suisse. Et notamment des banques suisses, qui accueillent en fait des fonds du FLN. Donc on a des actions politiques de pression, notamment mai-juin 59.
Sous quelle forme ?
Un discours à l'Assemblée nationale du Premier ministre qui condamne les entreprises de pays amis qui soutiennent ouvertement les Algériens.
Et il énonce nommément la Suisse ?
Alors ce qui est intéressant, c'est que dans son discours, lui ne l'énonce pas. Mais un jour après, dans la presse en France, sont nommées toute une liste d'entreprises et notamment des banques suisses. Donc le coup semble un peu monter, c'est-à-dire que... Et ça fait scandale en France. En Suisse, les banques suisses réagissent très vite. On a à Berne une réunion secrète où on dit attention. Il y a un formulaire qui circule en disant « Contrôlez si vous avez des fonds, est-ce qu'on peut... » Faites attention. Donc il y a vraiment
un mouvement... Donc l'avertissement paye.
Voilà, l'avertissement paye. Il y a une réaction aussi politique, c'est-à-dire que l'ambassadeur de Suisse à Paris va faire une démarche chez Michel Debré en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas de preuves. » Voilà. Ce qui ressort, parce que ces gens se connaissent, ces personnages se connaissent, leurs familles, c'est des amis un petit peu d'enfance en plus, c'est des gens qui viennent un peu du même milieu. Et on a une note qui est intéressante où Michel Debré dit « Mais je devais le dire. » C'était une question de politique intérieure. Ce n'était pas une attaque contre la Suisse, c'était une question de politique intérieure. Je devais prendre position violemment. Donc on a un double langage aussi. Si tous les Français de l'époque qui avaient des comptes en Suisse, c'est assez actuel comme débat.
Je vois pas à quoi vous faites allusion, mais enfin poursuivez quand même.
Je pense qu'il y avait... Voilà, il ne pouvait pas se permettre d'attaquer. Donc il y avait une attaque qui était plus orientée vers l'intérieur, mais qui a fait réagir en Suisse. Ce qui est intéressant, c'est que la réaction va aller loin. Petit Pierre va faire un discours en juin 59 devant l'Assemblée fédérale. Juin 59, c'est quelques mois après ces procès des légionnaires à Zurich. Dans son discours, il prend position... C'est une réponse à une question d'un parlementaire sur justement la question de la Légion. Et il prend position assez violemment contre les actes de torture faits par l'armée française en Algérie. C'est la première fois, je pense, qu'au niveau politique, au niveau officiel, il y a un discours à ce moment-là, on est en 59, où on prend position en disant ouvertement ce que l'armée française fait en Algérie va à l'encontre des droits de l'homme. Il y a des réactions qui sont tout aussi violentes du côté français en disant voilà, c'est la réaction des Suisses, on a touché à leur banque, voilà, c'est le retour du balancier. Donc il y a ces tensions-là. Je dirais que c'est à ce niveau-là qu'on voit les pressions et le retour de manivelle qui se fait un petit peu régulièrement.
En ce qui concerne l'Algérie, quelle est, Franck Bridel, la position du département politique ?
Eh bien, ce qui est intéressant à dire d'abord, je crois, c'est que la référence qu'a faite M. Petitpierre au problème algérien est venue très vite dans son discours. Il a commencé par parler des événements troublants en disant « le problème n'est pas résolu ». Mais depuis le discours de Gaulle, le point de départ est là, l'élément essentiel pour un règlement raisonnable et juste. Et enfin et surtout, il a synthétisé la portée du discours de Gaulle dans une phrase, l'assurance donnée que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes sera appliqué en Algérie.
Damien Caron, outre le fait que la Suisse et la France sont indéniablement géographiquement collées l'une à l'autre, quel peut être l'intérêt pour la Suisse d'avoir à mettre son nez dans ces affaires-là ? Ces intérêts sont-ils de nature stratégique, économique, politique ? J'ai bien conscience qu'en vous posant ça, vous allez me dire oui pour les trois, mais j'aimerais juste vous pousser un peu plus loin sur les oui et que vous nous détaillez peut-être quelques-uns de ces intérêts.
Je dirais que en 1945, quand il y a eu les massacres de Sétif en Algérie, dès lors, il y a des avis qui ne sont pas partagés par tout le monde. Si on prend le département militaire, eux, jusqu'à la fin, ils sont pour la présence française. Et puis... Mais dès 1945, on a des avis, des messages qui circulent en disant « c'est la fin d'une période, la colonisation française » touche à sa fin. On a gagné peut-être 10 ans, mais ce qui vient de se passer ici va avoir des conséquences. Donc, dès 1945, on est dans une vision, un jour ou l'autre, la colonisation va prendre fin en Afrique.
On est à 3 ans de la séparation Inde-Pakistan, pour voilà. Remettre un peu l'état d'esprit à l'époque.
Ensuite, 1954, le Maroc, la Tunisie, après... Et plus on s'approche des années 60, plus on voit arriver la libéralisation des différents pays africains. Donc, on a une position, maintenant si je me concentre sur l'Algérie, qui est de dire, on a une colonie importante, on a des Suisses là-bas, qui ont des intérêts, on a des entreprises suisses qui sont actives en Algérie. L'Algérie, ce n'est plus un verrou cette fois vers le nord, mais c'est aussi une porte d'entrée vers le sud. Donc l'Afrique est un territoire qui va être intéressant. Et je pense que ça, c'est la question économique. Il faut aussi se dire que dans les années 50-60, cette décennie-là, c'est la mise sur pied de tout ce qui va être ensuite la politique d'aide au développement. On stâte, on essaye de savoir. C'est une chose totalement du département de l'économie à l'époque. C'est vraiment un développement économique des pays les plus forts pour une rentabilisation aussi pour l'économie suisse. C'est cette vision-là qu'on a. Donc, de ce côté-là, on a un intérêt à prendre pied et à prendre la place d'eux. Et ça, les Français, pratiquement tout le monde le comprend. Et les Français ont des analyses assez fortes en disant, on voit bien ce que les Suisses veulent faire. Ils se réjouissent qu'on parte pour que... Voilà. Donc ça, personne n'est dupe de ça. Mais c'est fait partie d'une politique économique d'un pays qui doit se développer, qui a pas de matière première, qui... Voilà. Donc, on a cet axe-là. Après, l'axe politique, je dirais qu'il ne faut pas sous-estimer la vision politique d'un Max Petitpierre. Je pense que cette notion de neutralité, de solidarité, il la porte et il la développe aussi. Et puis, on a retrouvé une certaine utilité de la neutralité. Depuis 1954, on a en tout cas l'impression qu'on peut jouer un rôle sur la scène internationale. Et que ce rôle-là, il faut le faire parce que justement, la justification de la neutralité, elle est là, on l'a en action. Donc ça, c'est aussi un argument fort. Et puis,
Par rapport à l'Europe, est-ce que la Suisse a besoin, en quelque sorte, de reprendre position ?
Alors je dirais que la reprise de position, elle doit se faire à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Là, on utilise la France aussi comme alliée pour reprendre pied, au moment où on a des tensions avec les alliés. Après, dès le moment où De Gaulle revient au pouvoir, là, on a de nouveau une tension, parce qu'on a l'impression que la politique de De Gaulle va à l'encontre de ce que la Suisse voudrait comme développement au niveau européen. Donc là, c'est plutôt une notion, c'est une tension avec la France à ce niveau-là. Je dirais que dans la guerre d'Algérie, c'est clair que la position de la France, l'Allemagne et la France sont les pays les plus importants, sont les partenaires les plus importants pour la Suisse, économiquement parlant. Donc c'est clair que tout ce qui se passe de négatif pour un des deux partenaires a des influences et des impacts directs sur la Suisse.
Alors, quittons un instant le territoire, Damien Caron, et puis allons nous situer dans l'Algérie de cette fin des années 50, début des années 60, où les ressortissants suisses, qui pour certains ont pris la nationalité française, se sont installés. Leur nombre est relativement important, conséquent. Est-ce qu'on a un peu une vision de qui ils sont, quel type de travaux, d'occupation ils ont? Est-ce qu'ils sont un peu représentatifs de tous les secteurs? Ou est-ce que c'est plus une tendance qu'une autre? Et pourquoi, par ailleurs également, certains ont décidé de prendre la nationalité française?
Alors si je prends la dernière question et je remonte, c'est une politique française qui influe sur le choix ou le non-choix. C'est-à-dire que dès la fin du 19e siècle, la politique que mène la France au niveau de la nationalisation, la nationalité, on va dire, des ressortissants, va fluctuer, mais elle fluctue toujours dans un sens d'incorporation à la nationalité française et de difficultés. Alors, par exemple, il y a différentes périodes, mais à la fin du 19e siècle, un enfant de parents suisses qui naît sur le territoire algérien devient français automatiquement et doit faire la démarche à 18 ans pour recouvrer sa nationalité d'origine. Peu le font. C'est pour ça qu'en 1954, au début du conflit, on a sur un peu plus de 2000 personnes, à peu près 1000, la moitié sont des doubles nationaux. Donc c'est une des tendances, on va dire, lourdes de la colonie suisse. Une des autres tendances, c'est qu'elle vieillit. Il y a peu de jeunes. Période de la guerre, il y a beaucoup de gens de Suisse qui viennent faire des stages, qui restent 2 ou 3 ans et qui reviennent dans les entreprises suisses qui sont là-bas.
C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, 19e, implantation, installation, des familles, et puis quoi, après un décroissement démographique ou un départ?
Je dirais que, bon, il ne faut pas oublier que c'est une des plus grandes colonies suisses de l'étranger à l'époque, en tout cas en Afrique, qu'après le Maroc, c'est la deuxième. Et si on prend les colonies, les différents groupes par pays qui occupent l'Algérie, on est au troisième plan, après les Espagnols qui sont les plus importants et les Italiens. Donc c'est assez conséquent. Mais c'est vrai qu'on a des mouvements. On a au 19e siècle, je veux dire, le pic, c'est vers 1870-1880, là on a le plus grand nombre. Puis après, ben, les gens, soit ils repartent, parce que c'est plutôt une fin du 19e, début du 20e, c'est une émigration individuelle. Les gens vont. Les structures sont en place aussi, il y a des villes qui ont été reconstruites, on va pour développer quelque chose, pour aller... Alors on va retrouver... D'ailleurs, la colonie suisse de 1954-62, c'est des gens qui sont à peu près 90% centrés sur les villes, donc Alger, la banlieue d'Alger, et puis les autres grandes villes. Il y a très peu de colons qui sont éparpillés en âme, et c'est rare dans le territoire. Ils sont centrés sur les villes. Donc il y a eu un mouvement, je dirais... Au début, les premiers Suisses qui sont arrivés allaient dans les campagnes parce qu'il fallait travailler ces campagnes. C'était un peu la vision de 1830 à 1850. Voilà, on allait pour développer des choses. Ensuite, il y a eu des mauvaises expériences. Et puis, à partir de 1855, déjà, on se rabat sur les villes. Donc, on retrouve le plus grand nombre de Suisses dans l'Algérois.
Et que font-ils, donc?
Alors, il y a très peu de personnages qui font fortune. Il y en a. La plus grande fortune est une famille suisse d'origine, donc la famille Bourgeot, mais les autres, la grande majorité, sont actifs dans les hôtels, sont actifs. Beaucoup sont aussi des employés de maison, il y a des horlogers, c'est des petits artisans. C'est une sorte de classe moyenne assez simple. Il n'y a pas de grande figure, on va dire, de cette colonie. Il faut aussi dire que le niveau de vie en Algérie est plus bas que le niveau de vie de la classe moyenne suisse à l'époque. Donc c'est plus difficile aussi de développer quelque chose là-bas. Donc on a une colonie de classe moyenne.
Histoire vivante. Cette semaine, la Suisse et la guerre d'Algérie. De Sétif à Évian, neutralité et engagement.
Dans l'ensemble, après la fin des événements, après la signature d'Évian, est-ce que l'ensemble de cette communauté va revenir en Suisse? Si on le sait, combien vont revenir et combien vont rester, évidemment dans les grandes largeurs, pas des chiffres exacts. Et que va-t-il en être du retour en Suisse?
Alors, c'est difficile de donner des chiffres, mais si on part du principe que la moitié est double nationale, beaucoup vont rentrer en France, vont aller en France et pas revenir en Suisse.
Beaucoup... Le sentiment d'appartenance à une communauté pied-noir plus française.
Voilà.
Que...
Et puis surtout, beaucoup n'ont jamais vécu en Suisse.
Et... Ils n'ont pas plus vécu en France.
C'est vrai. Mais si on part du principe sur les colons qui avaient des terres là-bas, qui cultivaient encore la terre, mais là ça touche encore un nombre un peu restreint de gens qui avaient des moyens, eux ont préparé la sortie, ils avaient transféré une partie de leur fortune en achetant des terres aussi dans le sud de la France, donc eux ont déjà plus ou moins envoyé une partie de la famille avant, et ils se retrouvent donc en France. Effectivement, après il y en a d'autres qui suivent le mouvement, qui viennent avec les autres pieds noirs qui débarquent en France et qui restent en France. Il y en a quand même qui rentreront en Suisse. Au niveau des chiffres, moi, je n'ai pas été plus loin que 62, donc je me suis arrêté dans mes recherches sur 62. Je sais simplement que le départ a été assez difficile parce que tout au long de la guerre, tout au long du conflit, cette colonie a été tiraillée entre une sorte d'appartenance à cette population pieds noirs, c'est-à-dire on est notre pays, en fait, c'est l'Algérie.
Pam, 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 pour le dire en signal sonore.
Oui, il y a une partie qui va verser là-dedans aussi.
Algérie française.
Voilà. Il y en a d'autres qui disent, ouais, on est Suisse, on a des liens forts avec la Suisse, mais la Suisse ne nous aide pas. On n'a pas de soutien. Quand il est question dès 55, hein, on a des premières questions, les gens viennent dès 55, dès qu'il y a des premières craintes, on vient réguler sa situation au consulat. Les premières questions qui sont posées, c'est est-ce que la Suisse va organiser un rapatriement? Réponse de Berne, non, pas possible. On n'a pas les moyens, il n'y a pas de fonds. Alors après, on demande, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir droit au fonds pour les victimes de la guerre? Il y a un fonds qui a été fait pour les victimes de la guerre, Deuxième Guerre mondiale. Donc non, vous n'avez pas le droit. La guerre, on pense à la Deuxième Guerre mondiale, pas à une guerre qui est en fait un conflit interne dans un pays. Enfin bref, les arguments sont mis en avant.
On voudrait leur dire, on ne vous attend pas spécialement, on ne le dirait pas vraiment autrement.
C'est ce qu'ils le disent. Ils le sentent très fortement en disant, vous avez été content de nous voir partir. Vous êtes content qu'on fasse briller le blason de la Suisse à l'étranger, mais quand il faut nous aider, il n'y a plus personne. Donc il y a une grande frustration. Et souvent, le seul lien avec la Suisse, pour certains, c'est la lettre du consulat chaque année qui leur intime l'ordre de payer la taxe militaire. Pour certains, il y en a qui ont 10 ou 20 ans de taxes militaires en retard, donc la première chose qu'on leur demande, vous payez ce que vous avez à payer, puis ensuite on discute. Pour certains, ce n'est pas possible. La somme est trop importante. Donc on a des casse-têtes,
Quand bien même, en plus symboliquement, c'est quand même beaucoup, quoi. C'est beaucoup demandé.
Donc on a une grande tension. Et puis après, souvent les colons suisses se disent « Mais en fait, on est suisse et pas français. Donc on va se présenter aux Algériens comme étant suisse, donc ils vont nous accepter. » On demande, par exemple, la possibilité de recevoir des drapeaux suisses qu'on clouerait sur les portes pour pas que les Algériens
se trompent.
Il y a des grands débats en disant est-ce qu'on va leur donner ces marques ou pas, ça peut faire l'effet contraire, ils vont peut-être être dynamités pas par le FLN mais par l'OAS, c'est très très compliqué. Et du côté des autorités, du côté du consulat, on n'ose pas non plus faire des démarches trop tôt en disant on va mettre sur pied un fonds de solidarité, on va demander aux Américains et aux Anglais qui ont des bateaux qui circulent en Méditerranée de nous réserver X places pour nos ressortissants. Parce que en 56-57, si les Français l'apprennent, que les Suisses sont en train de faire ces démarches-là, ça va mal passer. Donc le dossier est très difficilement gérable.
Il est quand même stupéfiant de se dire que sur une telle cause, même si la communauté, bien qu'importante, n'est pas si importante que cela, en termes numériques simplement, de se dire qu'il n'y a pas à un moment une personnalité politique qui se fait l'avocat de la cause et qui va peut-être monter au créneau et essayer de convaincre. Ils sont vraiment abandonnés. C'est l'impression que vous nous donnez, Damien Caron.
Alors après, ce qu'il y a, c'est qu'ils organisent. Donc plus on s'approche de la fin, plus on va mettre sur pied des places, justement, dans les bateaux. On va leur envoyer des cadres pour pouvoir mettre leurs meubles et tout ça, avec réservation des places dans le port au moment. Mais c'est vraiment la fin. Et à ce moment-là, c'est la débandade, pratiquement. Les gens vont partir. Beaucoup vont partir en laissant les choses, en se disant on va mettre justement la marque comme quoi on est Suisse et on va pouvoir revenir récupérer. Ça ne se passe pas tellement de manière différente que ce qui se passe pour les Français. Il y a des gens qui restent, qui vont essayer de se dire l'important c'est qu'on puisse rester ici. Chez nous, c'est ici, on s'accommodera du nouveau gouvernement. Ils vont rester peut-être encore quelques années. La plupart vont repartir assez rapidement, quelques années après. Et ils vont être remplacés gentiment par des Suisses qui vont venir faire de l'aide au développement. Après, ça, c'est une autre population qui va se mettre en place. Mais ça, c'est quelque chose qu'on connaît aussi du côté français. Donc on a des gens, une colonie qui va se retrouver déracinée en plus entre la France et la Suisse quand ils reviennent, avec des questions qui vont être posées au Conseil fédéral. Ils vont s'organiser. Il y a l'organisation des Français d'outre-mer. Il y aura les Français d'outre-mer, mais section suisse, on va dire ça comme ça. Et ils vont adresser au gouvernement suisse des demandes d'indemnisation. Le gouvernement suisse va leur répondre, mais c'est au gouvernement français qu'il faut demander. Sinon, on ne peut pas vous indemniser de quelque chose pour lequel on n'était pas responsable. Donc, ce dossier est encore ouvert. Il n'y a jamais eu de conclusion, et je sais qu'il y a quelques années encore, au moment où je commençais mes recherches, je savais qu'il y avait, je voyais encore dans ces dossiers qui existent, qui sont vraiment des grands dossiers de cette association, où des demandes étaient encore pendantes et on attendait des prises de position. Donc c'est une situation très très difficile parce que
c'est un abcès, hein. On le sent d'ailleurs comme il peut y avoir en France, sauf que c'est pas du tout de la même nature en quelque sorte. C'est tout à fait cousin, c'est tout à fait jumeau, et on a un peu l'impression en même temps que ce n'est quand même pas du tout les mêmes parents, pas les mêmes géniteurs.
Voilà, ils étaient là, mais en fin de compte, ils étaient. Il y a un discours qui est assez intéressant. Ils ont le consulat de Suisse à Alger avait une brochure qu'ils éditaient chaque mois un petit peu, et en 60 ou 61, très très tard, pour le 1er août, c'était en 60, parce qu'après Petit Pierre n'était plus là. Donc Petit Pierre écrit un discours et il le fait publier dans cette brochure. Et le texte est assez fort, c'est de dire « Vous êtes Suisse, vous êtes toléré en Algérie, mais vous êtes Suisse. Donc vous ne devez pas considérer ce territoire comme le vôtre, mais comme un endroit où vous vivez, mais votre pays, c'est la Suisse. Donc, agissez en tant que Suisse. Ne vous mêlez pas de la réalité du conflit, restez neutre, voilà.
Il lui fallut que ce texte soit écrit à la fin du XIXe siècle et suivi d'administration en administration, pour qu'il soit digeste.
Voilà. Et c'était
il tombe un peu tard, quand même.
Oui, et puis c'était dur d'entendre, c'était vraiment de lire maintenant... Vous savez ce qu'il vous reste à faire, quoi. Donc vous devez rentrer. S'il y a des problèmes, là vous n'avez aucun droit. Ensuite, qu'est-ce qu'il arrive, ouvrons une hypothèse, qu'est-ce qu'il arrive à un double national ou à un Suisse qui n'a pas la nationalité française, qui arrive sur le territoire français, qui débarque à Marseille, et puis qui va vers les autorités françaises en disant « j'ai tout perdu
». Les Français, c'est difficile de trouver le bureau, là.
Voilà, exactement.
Dans votre travail, Damien Caron, vous avez énormément, vous nous le disiez hier, eu affaire au carton, à une masse extrêmement conséquente de milliers et de milliers de documents, de photographies. Quand je dis milliers, c'est probablement votre femme doit pouffer en disant « ce ne sont pas des milliers, ce sont des centaines de milliers, monsieur ». Dans les sources, est-ce que les témoignages... direct, vous y avez eu également recours, et si oui, est-ce que vous pourriez nous en donner quelques exemples?
Alors j'ai eu quelques entretiens qui concernaient les Algériens actifs en Suisse, que j'ai eu l'occasion de rencontrer soit en France, soit en Algérie.
FLN ou MNA, puisque eux-mêmes sont divisés?
Alors c'était des FLN, des gens actifs dans le FLN. Donc ça, c'était pour un petit peu essayer de comprendre le rôle de la Suisse, ou l'utilisation un petit peu du territoire suisse, comment est-ce qu'ils avaient vécu. Alors, c'est toujours un petit peu difficile, ces témoignages, c'est le rôle de la clandestinité à l'époque. L'organisation clandestine faisait qu'on connaissait une ou deux personnes, enfin, ces gens connaissaient une ou deux personnes, et l'information était toujours un petit peu fragmentée. Donc c'est toujours aujourd'hui difficile de reconstruire.
Ils n'ont qu'une partie de...
C'est vraiment des parties infimes d'une réalité. Ensuite, j'ai pas mal eu de contacts avec des gens qui étaient actifs dans les réseaux d'aide au FLN. Des gens, soit des Français, soit des Suisses qui ont été actifs dans les réseaux, soit pour les transits, soit un petit peu comme ça. Donc là, là, il y a moins de sources. On voit moins de choses. Ou alors les sources qu'on a sont les sources de la police fédérale qui sont... Il faut se replacer dans l'état d'esprit de l'époque. C'est difficile de se baser sur ce qui est écrit. C'est riche pour voir un petit peu l'agenda de ces gens. On peut remonter très fidèlement de savoir que telle personne était dans tel bistrot tel jour à telle heure et a parlé avec une autre personne. Mais plus que ça, c'est difficile parce qu'après, l'interprétation du policier fait que... Souvent, on se retrouve avec des choses qui ne correspondent pas. Donc, l'interview est des fois importante pour essayer de remettre les informations les unes sur les autres, de croiser les sources.
Est-ce qu'il a été facile d'avoir ces entretiens? Avez-vous essuyé des refus, beaucoup, ou les portes se sont-elles ouvertes avec, peut-être l'avez-vous ressenti, une forme de « enfin, je vais pouvoir parler ».
En ce qui concerne les gens qui ont été actifs dans les réseaux, les premiers ouvrages qui sont déjà des ouvrages qui sont parus, Les porteurs de valises, par exemple, cet ouvrage qui est paru à fin des années 70, se basait essentiellement sur les témoignages. Avant l'ouverture des sources, il n'y avait que les témoignages. Donc ces gens étaient habitués à parler, à témoigner. Donc moi, quand je suis venu chez la plupart de ces personnes, ils avaient déjà fait un travail de témoignage qui existait. Souvent, eux-mêmes avaient en plus écrit et publié leurs témoignages.
Mais l'angle avec lequel vous veniez, alors, jeune historien, avait certainement dû changer de leur premier témoignage d'avant.
Oui, alors c'est assez intéressant parce que moi, je venais souvent en ayant lu ce qu'ils avaient publié et en venant avec l'angle suisse. Alors, si c'était des Suisses que j'interviewais ou qui avaient été actifs en Suisse, ça allait. Parce que pour eux, la problématique n'était pas totalement farfelue. Mais certains témoins français, pour eux, c'était bizarre de venir et de se poser la question sous l'angle de la Suisse. Pour eux, le territoire suisse avait été marginal, ou ils l'avaient utilisé comme voie de passage, et puis voilà. Et ce qui est normal, parce qu'ils avaient vécu une chose précise avec une information précise. Donc c'était très intéressant, souvent. Alors en France, j'ai eu souvent ça, moins chez les Algériens, mais que les Français, la réaction dit « mais bizarre, pourquoi vous nous posez cette question par rapport à ça, la Suisse ?» Donc je devais toujours expliquer pourquoi, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'il y avait là derrière, pour que tout d'un coup ils disent « ah mais c'était pas du tout... »
Et une fois l'explication donnée.
Alors après, ça, c'est clair qu'il y avait une discussion qui s'établissait. Mais j'ai jamais eu de refus de témoigner de tous bords. Même de personnes actives et responsables, par exemple du réseau OAS, ils avaient un besoin. Je crois que c'est des gens qui ont besoin maintenant de porter un témoignage.
Alors il y a un de vos collègues, Luc Van Tongen, qui s'est intéressé de près à la relation entre certains Suisses et l'OAS, et on va l'entendre dans l'entretien qui suit.
Alors la Suisse a été touchée effectivement par l'OAS de différentes manières, qui sont très peu étudiées et très peu connues jusqu'à présent. Il y a tout un éventail d'implications qui ont mis en jeu la Suisse. On peut ici mentionner par exemple l'engagement de certains ressortissants suisses dans différents groupes de l'OAS, que ce soit en métropole ou ailleurs. On a quelques cas connus qui se sont engagés depuis l'Allemagne. On a l'attitude de la colonie suisse, des Suisses qui étaient installés en Algérie et qui ont eu un certain nombre de sympathies envers l'OAS, envers la cause en tout cas de l'Algérie française. Et puis il y a un autre grand champ, si vous voulez, qui serait les activités de l'OAS en Suisse. Alors c'est un peu ce domaine-là que moi j'avais essayé d'explorer, qui a été très peu étudié, pris en compte par l'historiographie jusqu'à présent. Il y a relativement peu d'archives sur ce sujet, mais tout de même des archives dans les archives publiques, à la fois fédérales et cantonales, qui permettent de cerner un peu les contours d'un phénomène qui reste encore assez flou, mais dont on peut quand même déjà poser quelques jalons, je dirais, malgré le côté forcément flou, vu le côté clandestin de toute cette affaire. Ce qui ressort de cet activisme de l'OAS en Suisse, moi j'ai essayé de dégager trois temps. Un temps, ce qui serait les prémices avant la constitution de l'OAS, avant février 1961. Un temps, l'existence même de l'OAS, entre février 1961 et la fin de l'OAS, avec le départ des militants, des ultras pro-Algérie française en juillet 1962. Et puis un temps d'après, qui est en fait le temps le plus important pour la Suisse, qui correspond à l'époque du Conseil national de la Résistance et du Conseil national de la Révolution, qui sont donc les deux avatars en quelque sorte de l'OAS, les prolongements de l'OAS une fois que l'Algérie est devenue indépendante. Et là, je dirais qu'on peut se concentrer sur cette période parce que c'est quand même là qu'il y a eu le plus d'activités qui ont mis en jeu la Suisse, avec d'abord des gens qui sont venus en Suisse juste au moment des négociations d'Évian, les accords d'Évian, et entre, si vous voulez, la proclamation de l'indépendance et les accords d'Évian, dans un moment de transition, de discussion, où on ne savait pas très bien comment continuer du côté des ultras de l'Algérie française. Et il semble que là, effectivement, des gens comme Georges Bidault, comme Jacques Soustel, qui seront les chefs du Conseil national de la Résistance, le CNR, donc le nouveau Conseil national de la Résistance, puisqu'il avait existé aussi un CNR pendant la Deuxième Guerre mondiale, dont ils avaient fait partie d'ailleurs, et qui là cherche symboliquement à faire un lien avec la Deuxième Guerre mondiale, eh bien ces gens-là viennent en Suisse de manière un peu secrète, clandestine, pour des tractations et dans un but un peu de
préparer la suite de la lutte et la suite des activités. Mais ça ne prend pas véritablement. Certains sont expulsés par les autorités suisses. En revanche, ensuite, il y a une tentative un peu plus forte encore au cours de l'été 1962 de s'installer en Suisse. Il y a la police genevoise et romande qui procède à l'arrestation de différents militants. Et on voit qu'il y avait une tentative d'installer une antenne du CNR en Suisse destinée ensuite à rayonner sur toute l'Europe avec apparemment un plan, un projet assez ambitieux de s'installer en Suisse et de profiter, disons, des commodités, de la situation géographique, peut-être aussi de certains contacts et de certains milieux bien disposés envers l'OAS en Suisse pour de là agir comme un centre un peu de commandement. Seulement, alors, cette tentative va échouer puisque la police va arrêter les militants. Il faudra attendre 1963 pour revoir au fond de nouveau un sursaut d'activisme CNR en Suisse. Cette fois-ci, le Conseil national de la Révolution. Alors, il porte le même sigle, mais c'est sensiblement différent comme objectif. Le Conseil national de la Révolution rassemble des militants de l'Algérie française qui ne se résignent pas à l'abandon de l'Algérie, mais qui ont bien compris que le combat de l'Algérie française en soi, il est perdu. Alors que s'ouvre pour eux une autre perspective qui serait une Europe chrétienne, une Europe, la défense de l'Occident, une Europe anticommuniste, au fond une internationale noire qui cristalliserait les restes du combat de l'Algérie française. Et c'est ce groupe-là qui non seulement va venir séjourner comme ça sporadiquement en Suisse en 1963, mais jette les bases de l'appel que le capitaine Pierre Sergent va faire le 14 avril 1963 et qui appelle non plus seulement à la résistance, mais justement à la révolution dans cet esprit anticommuniste, dans cet esprit de défense de l'Occident chrétien. Et puis là, donc, on est, si vous voulez, déjà dans un peu dans la fin c'est la queue de la comète de l'activisme Algérie française. Et se dessinent là autour quelques pôles en Suisse et en Suisse romande essentiellement de soutien à certains milieux. Et notamment autour du Valais, autour de Sion, du Nouvelliste, son directeur André Luisier, qui avait de la famille pied-noir, qui soutenait la cause des harkis, qui était non seulement bien disposé envers l'Algérie française, mais qui était aussi très anticommuniste, très proche des milieux intégristes catholiques valaisans, et qui déploie une activité assez intense de soutien dans son journal, où il donne la parole à des militants de l'OAS. Il organise un certain nombre de conférences publiques, il prend position en faveur de certaines causes, il organise une conférence avec le Bouchaga Boulam, le représentant des harkis algériens. Et puis, il va assez loin, hein. Il tient tout un discours anticommuniste extrêmement, extrêmement virulent. Il met en cause la lâcheté de l'opinion en Suisse à ce moment-là autour de cette question. Il publie notamment également... en créant une maison d'édition juste pour l'occasion fictive, l'édition du Château, il publie le premier tome des mémoires de Jean-Jacques Susini, qui était le numéro 2 de l'OAS, Histoire de l'OAS, qui paraît en 1963. Donc là, si vous voulez, des affinités et un terroir très propice pour ces gens de l'OAS, dans des milieux très conservateurs romands, où se mêlent, avec une forte connotation catholique, ultra également, catholique intégriste.
Damien Caron, votre travail a principalement été sur la Suisse officielle et comme vous nous le disiez, c'est au travers des innombrables documents avec lesquels vous êtes tombé, notamment les documents diplomatiques, que vous avez pu faire ce travail qui vous a pris une dizaine d'années. Si vous deviez faire une synthèse en disons une dizaine de minutes de ce que la Suisse a pu gagner de cette expérience diplomatique-là, entre les différentes prises de position que vous nous rappeliez, les différents changements, notamment avec la France, et les conséquences qui ont pu avoir lieu en résonance de cette expérience, je dirais après 62, est-ce que vous pourriez en tracer à grands traits, forcément, la richesse éventuelle de cette expérience diplomatique pour la Suisse?
Moi, je dirais qu'au niveau diplomatique, c'est un petit peu l'apogée de ce que la neutralité active a pu faire. Le sentiment général, c'est quand même le sentiment d'un pays, d'un gouvernement qui a un petit peu ballotté au gré des décisions d'autres grandes nations.
Qui, du point de vue-là, montre ses faiblesses.
Voilà. Quand on s'adapte en réaction à, plutôt qu'on est actif. Quand on est actif, généralement, on l'a vu, les propositions faites concrètement, elles ne sont pas tellement forcément prises au sérieux. C'est plutôt quand on vient demander à la Suisse quelque chose que la Suisse réagit de manière positive.
Merci d'avoir été des nôtres pendant 2 jours, Damien Caron. D'autant que désormais, cette thèse, c'est un bouquin. Donc vous allez nous redonner le titre de cet ouvrage et le nom de l'éditeur. Faites donc un peu de promo, je vous prie.
Voilà, donc c'est La Suisse et la guerre d'indépendance, édité par les éditions Antipode à Lausanne.
Merci d'être venu en parler au micro d'Histoire Vivante. Demain, à la suite de cette évocation, avec un témoignage, celui d'un citoyen franco-suisse, officier engagé au cours de la guerre d'Algérie.
Histoire vivante vous a été présentée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la collaboration de Corinne Rocha, Daniel Zacker, Valérie Dantan et Jean-Philippe Tvalen. Vous pouvez nous écrire ou télécharger nos émissions sur notre site internet rts.ch/histoire-vivante ou commander des CD de l'émission en appelant le 026 323 24 24. Vous écoutez La Première et il est 21h.